Bonjour, bienvenue sur le réseau FM+, 103.1 à Nîmes et sur le 91 à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. La méthode Tomatis est une méthode basée sur la rééducation de l'écoute. Elle s'adresse aux personnes, enfants et adultes, aux prises avec divers problèmes de voix, d'écoute, d'apprentissage ou de communication. Nous avons abordé ce sujet lors de l'émission du premier mercredi de ce mois. Vous pouvez donc l'écouter sur notre site. Et aujourd'hui, j'accueille de nouveau Sophie Varenfrain, directrice consultante du Centre Langage Écoute à Montpellier. Elle va nous développer plus concrètement, dirons-nous, cette pratique. Bonjour Sophie.
Bonjour Annick.
Alors, quels sont les différents domaines d'application de la méthode Tomatis et de Optime Écoute ?
Alors, moi j'interviens dans de nombreux domaines d'application, puisque l'oreille touche à de nombreuses choses dans l'être humain. Alors, la méthode agit sur tout ce qui est capacité d'attention, concentration et mémorisation, d'expression bien sûr, de communication, tout ce qui relève des difficultés scolaires ou comportementales, et puis des adultes qui viennent pour une démarche personnelle. Des problèmes auditifs dans certains cas, et un apprentissage en langue.
Mmh, ça c'est intéressant. Alors bon, on va développer tout ça, mais quels sont les résultats les plus perceptibles de la méthode, je dirais ? On va prendre l'exemple de l'enfant.
Alors, des enfants me sont amenés pour diverses raisons. Il peut y avoir par exemple le cas d'un enfant qui a des difficultés à l'école, type dyslexie, ou dysgraphie, hein, tout ce qui est en 10 signifie difficulté, tout simplement, ce n'est pas une maladie. Alors, ces enfants sont souvent suivis par une orthophoniste ou une psychomotricienne pour améliorer, donc, par exemple, l'écriture ou l'apprentissage de la lecture. Et moi, je vais intervenir sur quelque chose de beaucoup plus global pour ouvrir son écoute sur certaines fréquences. Alors, par exemple, si un enfant de 8 ans a un problème d'écriture ou un problème d'inversion de certains sons ou mots, lorsque je lui fais le test, j'ai des indicateurs. Hein, le test d'écoute va me permettre de voir comment il sélectionne certaines fréquences et j'ai constaté dans ma pratique que sur des tests où la zone des fréquences graves est mal perçue, on appelle ça les fréquences vestibulaires ou graves, ces enfants manquent de perception au niveau du corps. Ils ont un corps qui est mal posturé, ils bougent beaucoup, ils peuvent parfois être associés à tout ce qui est hyperactivité, entre guillemets. Lorsque cette fonction de l'oreille n'est pas suffisamment stimulée, on va avoir des enfants qui sont mal dans leur corps et qui vont avoir du mal à le poser et à se concentrer. À partir du moment où on remet en route la gymnastique de l'oreille dans ces fréquences-là, on a un enfant qui déjà va mieux se posturer et va, par voie de conséquence, mieux écrire. N'oublions pas que l'écriture, c'est aussi de la motricité. Plus fine, mais ça reste du moteur.
magnifique, le Requiem de Mozart sur le réseau FM+, et dans votre émission Itinéraire Santé. Donc évidemment, ce n'est pas pour rien que nous passons du Mozart pour nos pauses musicales. Sophie Varenfrain, pourquoi Mozart dans la méthode Tomatis? Réexpliquez-nous s'il
Allez.
Vous plaît.
Alors pourquoi Mozart, le choix de Mozart? Parce que c'est une musique qui est riche sur l'ensemble des fréquences, et notamment bien sûr les fréquences aiguës, qui vont avoir un impact plus important au niveau de la dynamique du cerveau. Hein. Une personne qui perçoit moins bien les aigus est impactée au niveau neuronal. Hein. Dans la musique de Mozart, on a une dynamique. N'oublions pas que Mozart a écrit très jeune, qu'il est mort jeune d'ailleurs. Donc il y a un mouvement que l'on ne retrouve pas ailleurs, hein, oui. Et une joie.
Oui, là, voilà, le Requiem, c'est un peu particulier. Enfin, c'est, on va dire que c'est son œuvre la plus noire.
La plus solennelle.
Mais,
oui,
voilà,
oui.
Mais c'est vrai que Mozart, c'est quand même un grand, grand plaisir de l'entendre. Alors, Sophie, comment se passe une séance? Quelles sont les différentes étapes?
Alors, concrètement, c'est 3 en 1, je dirais.
3 en 1.
La première étape, c'est de faire, bien sûr, un bilan d'écoute avec un test d'écoute. Ça va me permettre de définir le profil d'écoute et de personnalité de la personne qui vient. Ensuite, étape 2...
Ah, attendez, moi je vous arrête là, parce qu'on est encore à l'étape 1. Moi je veux tout savoir, comment ça se passe?
Alors, je fais ce qu'on appelle ce test d'écoute.
Oui, mais c'est... Alors, comment on fait un test d'écoute?
Alors, un test d'écoute, effectivement. Rentrons dans le concret.
Ah oui.
La personne met un casque sur la tête et je vais lui envoyer un ensemble de fréquences auxquelles elle devra répondre lorsqu'elle entendra, bien sûr. Mmh. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un test d'analyse des sons. La personne doit comparer des sons entre eux au niveau des aigus et des graves. Puis je vais faire un test d'expression où la personne va me parler et je vais déterminer si la personne utilise davantage son oreille droite ou son oreille gauche lorsqu'elle parle. N'oublions pas qu'on est notre premier écoutant. Lorsque je parle, je m'écoute, et toujours plus d'un côté que de l'autre. Mmh. Hein, donc, lorsque j'ai fait ce test, je veux avoir vraiment un schéma, un rendu graphique, de la manière qu'a la personne de se mettre à l'écoute ou pas de certains sons.
Alors, est-ce que ça ressemble un peu au test qu'on fait pour l'audition?
Alors, un test auditif, on va juste vérifier si vous entendez ou pas. Là, je le vois, bien entendu, si la personne entend ou n'entend pas bien, mais je vérifie aussi l'écoute, donc en aérien, dans l'oreille directement, mais en osseux, celle qui passe directement sur le corps, sur notre squelette, hein, puisque c'est un conducteur de son. Donc, j'ai une lecture qui est différente et je vais, analyser plusieurs zones de fréquence. Sur un test auditif, vous aurez 6-7 fréquences. Hein, les principales, pour voir si vous entendez ou pas. La latéralité, non, n'existe pas chez les médecins, alors que c'est un facteur très important au niveau de sa propre communication. Quelqu'un qui écoute à droite reçoit directement l'information dans son cerveau gauche, qui est le cerveau du raisonnement et langagier. Quelqu'un qui écoute à gauche est quelqu'un qui va réceptionner d'abord l'information dans son cerveau droit, donc le cerveau sensitif et émotionnel, avant d'intégrer l'information. Donc ce sont deux manières d'écouter opposées, en sachant que chaque cerveau, nous en avons deux, commande la partie opposée du corps, y compris l'oreille.
Alors, chers auditeurs, je vous invite à faire le test lorsque vous êtes en train d'écouter quelqu'un. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous tendez plus l'oreille droite ou l'oreille gauche? Déjà, vous apprendrez pas mal de choses, quelque part, sur vous.
Absolument, hein, et c'est très intéressant à regarder. Moi qui fais des tests, j'ai souvent les personnes ou les enfants en face de moi. Il y a toujours une attitude, une posture qui va tendre plus d'un côté au niveau de la tête que de l'autre. Alors, ceux qui l'utilisent beaucoup, qui ont compris ce rôle quand même de l'oreille droite et l'oreille gauche, lorsque nous faisons du chant, on a parfois, lorsqu'on est dans une chorale, besoin de se recentrer sur soi pour apprendre à s'écouter. Et souvent, on va mettre la main sur l'oreille pour avoir la résonance de sa voix et favoriser ce que nous appelons une boucle audio-vocale. C'est le lien entre l'oreille et votre voix.
D'accord. Alors, lorsqu'on met le main comme ça, ouais, à l'oreille, est-ce que c'est, je pensais que c'était plus parce que, voilà, en cœur, on était gêné par les autres personnes et pour éviter les parasites, entre guillemets. Les chants corses, les chanteurs corses font souvent ça.
C'est vrai qu'il peut y avoir ce phénomène, je fais barrage au son, mais il y a une autre dimension, c'est que je remets le son sur un côté. Mmh. Hein. Il vaut mieux que ce soit la droite, parce qu'elle est en lien direct avec le cerveau, du langage et du raisonnement.
D'accord.
On va à l'essentiel. Quand on écoute à droite, regardez également l'oreille sur laquelle vous mettez le téléphone. C'est intéressant aussi.
Ah oui. Eh oui, 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 oui. Alors revenons à ce test. Donc voilà, vous avez des courbes que vous interprétez.
Absolument.
Et donc ensuite.
Alors après, selon ce que je vois sur le test d'écoute, alors je vais vous donner par exemple le cas d'une personne, d'un enfant ou d'un adulte d'ailleurs, qui va avoir une bonne perception de l'ensemble des fréquences, mais va avoir une écoute du corps qui est trop importante par rapport à l'écoute de l'oreille.
Mais ça veut dire quoi, l'écoute du corps?
Alors l'écoute du corps, parce qu'en fait, je fais deux tests. Un directement dans l'oreille, comme lorsque vous mettez un casque sur les oreilles, et un autre casque que je vous mets derrière l'oreille pour tester la conduction osseuse, c'est-à-dire la conduction par le corps, en sachant que l'oreille interne est juste derrière aussi. Alors, en fonction de cette réception, je vous donne un exemple d'une personne qui va trop recevoir l'information sonore par le corps et moins par l'oreille. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle des écoutes hypersensibles ou à fleur de peau. C'est un petit peu comme si vous receviez l'information sonore en vibration d'abord par le corps avant d'utiliser votre oreille. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'impression d'avoir une agression par les sons parce que le corps est en tension permanente et reçoit trop d'informations sans pouvoir l'analyser par l'oreille. Parce que l'oreille, normalement, vous sert à analyser et à adapter ce que vous entendez de l'extérieur vers votre intérieur.
Oh là là, oui, oui, c'est passionnant. Alors donc, deux tests en fin de compte, deux casques, voilà, un sur l'oreille, ensuite un autre juste derrière. Ensuite, comment procédez-vous donc suivant voilà, vous nous donniez un exemple. Que conseillez-vous à la personne? Qu'est-ce que vous mettez en place?
Alors c'est vrai, j'en reviens. J'avais perdu mon fil conducteur. Merci de me le rappeler. Alors par exemple, si je vois qu'une personne a les fréquences graves qui ne sont pas suffisamment bien perçues, je vais adapter un programme. Une programmation à base de musique de Mozart et de certains filtres fréquentiels et de l'Auditory Training System qui va permettre de muscler son oreille dans cette zone des fréquences graves, puisque je vous le rappelle, quelqu'un qui perçoit moins bien les graves est quelqu'un qui va manquer de concret ou va avoir par exemple des problèmes de rythme. Alors de rythme dans l'écriture pour les enfants, mais de rythme physique également. S'il veut danser, par exemple. Ah. Hein. Imaginez-vous, je vais vous donner l'exemple, vous êtes à un concert avec une amie, vous entendez parfaitement bien toutes les deux, seulement vous allez avoir votre oreille naturellement attirée par les violons, vous vous laissez porter par les aigus dans la musique, et votre amie va dire, tiens, moi j'entends le rythme là, tu entends comme c'est beau là, ça me donne envie de bouger là-dessus. Chacune a des préférences auditives. Et on ne va pas parler de problèmes auditifs, là. C'est vraiment une écoute qui est personnelle. C'est une empreinte, l'oreille.
Yes, we speak English sur le réseau FM+. Bon, à l'oreille, je suis pas sûre, chers auditeurs, que ça vous ait beaucoup plu, mais Sophie Varenfrein va nous expliquer pourquoi nous avons passé cet extrait.
Alors, à mon avis, peu l'auront reconnu, mais c'est un texte en anglais, c'est un extrait du Petit Prince.
Oula.
Lu par une Anglaise d'origine, et ce texte a été filtré à 4000 Hz pour bien percevoir les fréquences aiguës. Alors, il faut savoir qu'en anglais, l'anglais est vraiment une langue très différente du français sur le plan des sonorités. Hein, on ne va pas parler de grammaire, puisque ça, c'est de l'intellect, du raisonnement. Là, je vous parle d'acoustique et de fréquence. L'anglais est une langue qui va émettre dans des fréquences très aiguës et sifflantes. Hein. D'ailleurs, tout ce qui est hein, bien prononcé, oui. On va sossoter, nous, en français. Ce sossotement que certains enfants ont, en fait, ce sont des enfants qui sont dans l'écoute de l'anglais. Alors, chez nous, en français, c'est un défaut de langue, bien sûr, mais pas chez les Anglais. Alors, le fait d'entraîner l'oreille dans les fréquences aiguës va permettre à la personne d'avoir moins de mal à se brancher sur la musicalité de la langue anglaise. Hein? Son oreille va aller travailler dans cette zone où on n'a pas l'habitude d'aller, puisqu'en français, on écoute surtout entre 750 et 2000 Hz, alors que l'anglais se situe entre 2000 et 16000. Ce sont deux langues l'une à côté de l'autre. Donc, rien d'étonnant à ce que nous ayons autant de mal à parler l'anglais en France.
Et oui, et oui. Donc voilà une bonne façon en fait d'apprendre l'anglais. Donc en pratiquant cette méthode, justement voilà, puisqu'on était dans comment se passe une séance. Voilà, moi je voudrais vraiment améliorer mon anglais. Je viens chez vous. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être pris en charge par les organismes.
Les OPCA, la formation professionnelle. Hein, effectivement.
Voilà, puisque bon, on l'a abordé sur la première émission. Les séances ne sont pas remboursées par la sécurité. Sociale, mais là, dans ce genre de cas, ça l'est par les organismes.
Hein. Effectivement.
Voilà. Bon, alors, voilà. Là, qu'est-ce que vous m'avez fait mon test? Combien vais-je devoir faire de séances et à quel rythme?
Alors, pour l'anglais, il peut y avoir des formules sur 20 à 40 ou 60 heures. Tout dépend le niveau que la personne souhaite acquérir. Mais nous partons effectivement d'un test d'écoute, un bilan d'écoute de base, complété d'un test de niveau en anglais, et nous allons essayer d'amener la personne à mieux percevoir donc ses fréquences et cette musicalité de l'anglais. C'est ce qu'on appelle la prosodie d'une langue. C'est tous les éléments intonatifs, ceux que nous percevons lorsque nous sommes enfants. Un enfant apprend à parler n'importe quelle langue parce qu'il perçoit cette musicalité. Rien à voir avec la grammaire ni la syntaxe. D'abord, l'oreille. Et ensuite, nous allons approfondir avec la grammaire, l'écriture, etc. Alors, au départ, on fait ce bilan. Ensuite, en fonction du test de chacun, je vais adapter une programmation. Si je vois que vous manquez de fréquences aiguës, ben je vais vous mettre un programme visant à améliorer cette zone d'écoute dans votre oreille pour que vous soyez dans une zone un peu plus de confort lorsque vous entendez parler anglais. Nous axons beaucoup sur l'écoute et l'expression orale. Essentiellement.
D'accord. Et alors, combien de temps durent ces séances?
Alors, au niveau des langues, je vais avoir des rythmes assez différents. J'impose toujours un minimum de 2 fois 2 heures par semaine.
D'accord.
Mais j'ai des personnes qui viennent faire 20 heures sur une semaine pour avant un départ à l'étranger ou une conférence. Il y a toujours une raison professionnel ou personnel derrière.
Oui, alors donc c'est quand même assez intensif. Vous devez avoir des horaires, j'imagine, assez larges pour que les personnes qui travaillent puissent pouvoir s'organiser.
Tout à fait.
Et alors, est-ce qu'il est important de faire des interruptions aussi?
Alors, dans le cadre des langues, on peut faire un programme sur une semaine à 4 semaines, mais le but, c'est d'avoir un certain rythme pour que l'oreille puisse s'entraîner de manière correcte, convenable, et qu'il puisse surtout y avoir un effet durable.
Voilà, c'est ça. J'allais justement vous rebondir là-dessus. Est-ce que les progrès acquis durant ces sessions se maintiennent?
En principe, oui. Hein, c'est le but. Hein. On a restimulé l'oreille. L'oreille, d'elle-même, prend le relais. Hein, c'est un petit peu comme des séances pour les yeux d'orthopsie. Une fois qu'on a remusclé, l'oreille va de nouveau être à l'aise dans certains sons.
D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Alors, il faut toujours faire attention aux personnes qui ont des sifflements, bien sûr, ou des vertiges, puisque lorsque nous touchons l'oreille, nous touchons à quand même la posture et l'audition.
Hein, oui.
Donc là, nous allons mettre des programmes adaptés. Il faut toujours signaler si on se trouve dans ce cas-là.
D'accord. Et est-ce que cette méthode peut être combinée avec d'autres thérapies ?
Bien sûr.
Sans problème. Hein.
Bien sûr. Là, nous, on agit sur le global, sur la capacité d'écoute. Un enfant qui est en difficulté scolaire, si on lui apprend à mieux écouter, il sera plus concentré. Et tout le travail qu'il fera ensuite, par exemple avec son orthophoniste, n'en sera que bénéfique et surtout plus court.
Comment peut-on se rendre compte des résultats ? Enfin, est-ce qu'on sent, est-ce que voilà,
alors
est-ce
oui, que c'est une bonne question parce que chez les enfants, c'est souvent l'enseignant ou une personne extérieure ou les parents qui vont voir quand même un changement dans la manière de faire de l'enfant. Un enfant qui bouge beaucoup peut se poser et être plus attentif à ce qu'on lui dit.
Très bien. Peut-être quelques informations complémentaires à lire.
Alors, c'est vrai que je vous encourage à lire le premier ouvrage de Tomatis, L'oreille et la vie, où il explique tout son parcours. C'est un livre qui se lit vraiment très bien, qui n'est pas compliqué et qui explique les liens fondamentaux qui existent entre l'oreille et la voix.
Alors j'ai encore quand même une question à vous poser. Combien de temps en moyenne dure une démarche ?
Oui, alors là nous avons parlé tout à l'heure du cas des langues. Faut savoir qu'après un stage, donc, il y a une partie en training d'écoute, mais nous avons aussi des professeurs. Donc le professeur assure des cours avec le dispositif technique où le stagiaire a un casque sur les oreilles et va... Il est en face du professeur qui le suit et il va s'entendre parler puisque nous avons un micro dans la salle de cours et nous essayons d'orienter son écoute plus sur l'oreille droite pour être en lien direct avec le cerveau du langage. N'oubliez pas que l'oreille droite est en lien avec le cerveau gauche qui est le cerveau de toute langue. Et donc nous essayons d'accentuer ce côté pour que l'apprentissage soit facilité. Alors là, c'est le cas des langues, bien sûr. Après, tout ce qui est démarche personnelle, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir une session 1 et session 2. La session 1 va durer sur 20 à 24 heures, je vous donne une moyenne. Et la session 2 sur 10 à 12 fois 2 heures, avec un intervalle de 1 à 2 mois entre chaque session.
D'accord.
Chaque session est ponctuée d'un test d'écoute, de contrôle à la fin de la session pour voir exactement où en est l'oreille. Et l'écoute de la personne.
Oui. Est-ce qu'il y a-t-il au niveau de l'âge oui. Je pense à ça parce que bon, je suis venue visiter votre centre et j'ai vu une magnifique photo avec un bébé,
oui.
Le casque sur les oreilles.
Effectivement, c'était un jeune bébé qui avait peut-être 6 mois et à qui on faisait écouter la voix de sa maman dans un casque, avec les précautions bien sûr d'usage, puisque les fontanelles sont ouvertes, et que nous n'allons pas travailler là dans ces cas sur le son osseux, mais juste dans l'oreille. Et c'était un bébé prématuré justement, donc on lui redonnait cette nourriture de la voix de sa maman, comme il la percevait in utero. Les âges, c'est de... Allez, 2-3 ans jusqu'à 85 ou 87, parce que j'ai des stagiaires qui ont aussi 87 ans. Il n'y a pas d'âge pour stimuler son oreille. Et pour un cerveau, il n'y a ni vacances, ni retraite.
Eh oui. Donc il faut continuer à le faire travailler. Question beaucoup plus terre à terre. Combien coûte un bilan ? Combien coûte une séance ? Donc, en dehors des différentes formations, entre guillemets, en langue, etc., qui
bien
sont
sûr.
Prises en charge, mais sinon, voilà, il n'y a pas de prise en charge.
Non. Alors, le bilan d'écoute est de 90 euros. Il dure à peu près 1h30. En langue, il est de 65 euros. Et après, les tarifs varient, pour les langues en tout cas, de 19 à 40 euros de l'heure pour des stages de langue, sachant que c'est souvent de la formation individuelle que nous proposons pour bien axer sur les difficultés de la personne, puisqu'en France, on a beaucoup de mal à prendre la parole en anglais. Il y a toujours cette peur de mal faire.
Ou en public, tout simplement,
oui,
en français.
Absolument,
enfin, je dis,
absolument. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et justement, là, dans le cas des démarches plutôt personnelles, donc de prise de parole ou d'expression ou d'attention, concentration, il va falloir compter de 20 à 31 euros de l'heure. Alors, un devis, bien sûr, est établi après le bilan. Hein. Le bilan se fait à part.
Alors bon, nous sur le réseau FM+, on n'est pas très people, mais quand même, pour terminer, on va citer l'anecdote de Depardieu qui a utilisé la méthode Thomasis, n'est-ce pas ?
Oui, 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 mais il y a très très longtemps. Alors il avait des, c'est vrai que c'est un jeune qui avait des grosses difficultés d'expression hein, à 18 ans, et il a eu la chance de rencontrer sur son parcours le théâtre. Un maître de théâtre qui est Jean-Laurent Cochet.
Cochet, oui.
Et Thomatis, hein, puisque Cochet a envoyé Depardieu chez Thomatis pour rééduquer son écoute et surtout sa voix, hein, puisqu'il avait des difficultés à s'exprimer, Depardieu. Donc, ce qui a été fait, hein, Depardieu avait une écoute extrêmement sensible, il percevait trop, quelque part, et il a fallu rééduquer cette manière d'appréhender les sonorités et d'en faire quelque chose de canalisé. Pour qu'il puisse sortir sa voix et trouver sa voix.
Et oui, et il l'a trouvé.
Largement.
Alors nous, eh ben, nous aussi, nous avons trouvé notre voix. Et voilà, moi je pense que je vais venir vous voir.
Ah, très bien.
un petit bilan, c'est toujours très intéressant de savoir un peu où on en est au niveau voilà, de notre oreille, de notre écoute, et aussi de notre voix du coup.
C'est une façon de se connaître.
Voilà. Sophie Varenfray, un grand, grand merci. Donc,
merci à vous.
Je rappelle votre adresse, Centre Langage Écoute, 4 avenue École de l'Agriculture à Montpellier, c'est dans le quartier des Arceaux. Un téléphone 04 67 52 13 13. Le site clé, c'est le-montpellier.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous pour le premier et troisième mercredi du mois prochain à 9h, toujours sur le réseau FM+, pour une nouvelle thématique de votre émission Itinéraire Santé, que je vous conseille d'écouter aussi, bien sûr, en podcast sur fmplus.org. Merci à Manu qui était à la technique. Au revoir à tous.
Au revoir, et merci pour votre accueil.